J'espère qu'il va y avoir de la belle neige blanche qui va tomber pour la période des fêtes. J'ai dans mon studio Luc Tardy de la police de Saguenay. Bonjour Luc.
Bon matin Luc.
On est ensemble, on le rappelle, à toutes les deux semaines, on choisit des sujets de conversation qui peuvent aider les gens qui nous écoutent, les auditeurs du 92.5. Et là, on va commencer une série de chroniques en lien avec les fraudes parce que vous êtes débordés.
Ah, débordé, oui. Oh oui, c'est vraiment le mot débordé. On a 3 enquêteurs à plein temps sur les dossiers de fraude présentement. Les bureaux sont pleins. On passe des messages, on tente de donner des conseils à la population. Puis malheureusement, on dirait que les gens pensent toujours « ça m'arrivera pas à moi. Moi, ça peut pas m'arriver. Moi, je vais voir que c'est frauduleux. » Puis c'est pas toujours le cas. Souvent, les fraudeurs sont assez rusés. Donc, je trouve ça important de parler de ça.
Surtout, on parle de ce temps-ci de fraude financière un peu. Là. Il y a des fraudes en lien avec les cartes de débit, des fraudes en lien avec les cartes de crédit. Comment ils s'y prennent? Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là?
Mais les arnaqueurs réussissent à se procurer des listes de clients d'institutions bancaires, puis ils servent de ces listes-là pour faire des appels personnalisés. Donc, le téléphone sonne à la résidence ou sur le cellulaire, puis on vous appelle par votre nom. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour, Monsieur Girard. Je me présente, je suis représentant de votre institution financière. Puis là, il nomme l'institution financière. Je veux vérifier quelque chose avec vous parce que il y aurait eu une drôle de transaction sur votre carte de débit. Est-ce que c'est vous qui avez acheté pour 800 $ de produits cette nuit dans le secteur de Montréal, par exemple? Bien là, non, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Je suis à mon domicile, moi j'ai pas bougé. Ben oui, c'est ce que je pensais. Donc, on va regarder ensemble pour sécuriser votre compte puis régulariser tout ça. Je pense que vous avez été victime d'une arnaque.
Et hey boy, puis là, tu me l'expliques, puis il y a bien du monde qui vont se faire prendre. Même moi qui travaille dans le milieu, je me poserai des questions.
Oui, parce que c'est des choses qui peuvent arriver pour vrai. C'est des choses que les institutions financières font. Par contre, du moment qu'on décide de régulariser la transaction, la personne au bout du fil va demander le numéro de compte, va demander le mot de passe, va demander plein d'informations qui vont lui donner accès à votre compte. Il faut se rappeler que les institutions financières possèdent déjà toutes ces informations-là. Ce qu'ils vont vous demander, c'est vos informations personnelles afin de vous identifier. Ils vont vous demander peut-être le montant de votre dernière transaction, des choses comme ça pour être sûr de parler à la bonne personne, mais jamais que les institutions bancaires vont vous demander, par exemple, votre numéro de compte, votre NIP, vos mots de passe.
C'est jamais. Les gens à la maison, vous donnez jamais ça, peu importe la personne qui vous pose la question au téléphone. Puis tu sais, je le sais pas, là, mais il y a toujours moyen. Quand on n'est pas sûr, on peut dire à la personne, je m'excuse, c'est par téléphone, je suis pas certaine, je vais appeler à mon institution pour vérifier.
Exactement, oui.
Puis si la personne insiste, raccrochez.
Ben oui, parce que si c'est vraiment votre institution financière, ils vont réussir à prouver que c'est bel et bien eux, puis votre transaction va être régularisée. Mais dans ce cas-là, il y a beaucoup trop d'informations qui est demandée. Puis, il y a comme 2 stratégies à partir de là. Soit les gens vont... l'arnaqueur va dire à la personne au bout du fil, on demeure en ligne ensemble. Pendant ce temps-là, nous, on va aller dans votre compte. Puis, ne soyez pas surpris. Votre compte va être inactif. Vous n'aurez pas accès à votre compte pendant les prochaines minutes. C'est pas vrai. C'est juste pour se laisser le temps, eux, de rentrer vos informations, d'avoir accès à votre compte, puis pendant ce temps-là, bien, ils font des transactions, ils vident votre compte tout simplement. Donc, ils prennent l'argent qui est dans votre compte, transfèrent dans un autre compte, puis quand eux vous mentionnent que le compte est maintenant redevenu actif et que tout a été normalisé, bien, lorsqu'on va faire une vérification dans notre compte, sur notre application, par exemple, bien, on s'aperçoit qu'il ne reste plus rien.
Il ne reste plus rien. Ça me fait de la peine. Tu me le racontes, là. Puis là, ça, là, votre bureau, il y a plein de plaintes comme ça.
C'est comme ça, tous les semaines,
à Saguenay,
depuis,
au Québec.
Je ne peux pas vous dire combien de temps. Oui, c'est à la grandeur du Québec. Beaucoup, beaucoup de personnes se font prendre. L'autre stratégie, ça va être de demander à la personne de mettre sa carte de crédit ou sa carte de débit dans une enveloppe en prenant soin d'inscrire son NIP dans l'enveloppe en disant quelqu'un de l'institution financière ou quelqu'un de la police va passer chez vous en civil pour pas alerter personne, va aller ramasser votre carte pour la détruire de façon sécuritaire. À ce moment-là, bien, on vient de leur donner notre carte et notre numéro d'identification personnelle et eux vont se déplacer dans un guichet automatique pour vider le compte ou vont s'en servir pour faire des transactions.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Il y a d'autres fraudes, en fait. On entend souvent parler de marketplace de ce temps-ci, là.
Oui. Puis on va le nommer parce qu'il y a plusieurs fraudes qui sont basées sur Marketplace. Ça peut être d'autres sites de vente en ligne aussi, mais ce qu'on entend le plus présentement, c'est vraiment Marketplace. Des gens qui vont mettre des items à vendre qui ne sont pas des items réels, puis vont souvent mettre l'item à un prix un peu moindre que les articles similaires pour vraiment accrocher le client.
Fait que le client le veut à bas prix.
Oui, à ce prix-là, c'est alléchant, c'est intéressant, donc ça crée un besoin. Puis vont insister pour avoir un dépôt. J'ai beaucoup de gens qui veulent l'article. Tu m'as appelé en premier, mais il y en a 15 qui m'ont écrit après toi pour avoir cet article-là. Donc, je vais te demander un dépôt pour garantir la vente ou pour réserver l'article. Puis à ce moment-là, bien les gens encaissent le dépôt, se débranchent tout simplement de Marketplace sur cette identité-là. Puis à ce moment-là, bien on n'est plus capable d'avoir accès à notre dépôt. On a perdu nos sous.
Ben voyons donc.
Et ça arrive pour des petits montants, ça arrive pour des montants...
Des plus gros montants.
Des montants beaucoup plus gros.
Fait que si une personne demande des sous... Peu importe qu'elle soit honnête ou pas honnête, si elle vous demande des sous, posez-vous des questions, puis moi, je refuserais de donner des sous pour réserver, là.
Idéalement, à moins de bien connaître la personne, puis encore une fois, si on connaît bien la personne, normalement, le vendeur est supposé avoir confiance en nous, il ne nous exigera pas de dépôt. Je sais que ça va très, très vite sur ces sites de vente-là, l'objet à ce prix-là, on a besoin de l'objet, on veut cet objet-là, donc on est prêt à prendre le risque. Il y a quelques semaines, quelques mois, on conseillait aux gens, si vous voulez absolument faire un dépôt, faites ce dépôt-là, mais dans l'application où on peut faire un transfert, ils demandent un mot de passe. On disait aux gens, bien, envoyez le dépôt sans donner le mot de passe à la personne de l'autre côté. Puis quand vous arriverez pour faire la transaction physique sur le terrain, bien, à ce moment-là, vous pourrez lui donner le mot de passe et lui aura accès au dépôt. Mais maintenant, on ne peut même plus conseiller cette technique-là parce qu'il y a moyen maintenant de faire l'acceptation des dépôts sans même avoir besoin du mot de passe. Donc moi, si je m'inscris sur mon institution financière en disant, bien, à toutes les fois que j'ai un transfert bancaire, le transfert va aller dans tel de mes comptes, et on n'a même plus besoin d'avoir le mot de passe pour encaisser ces sous-là. Les sous s'encaissent automatiquement. Donc, maintenant, on ne peut même plus conseiller aux gens de ne pas donner le mot de passe parce que souvent, bien, les fraudeurs vont s'organiser pour ne pas en avoir besoin.
Maintenant, par courriel, moi, je reçois personnellement régulièrement des courriels. Là, on me demande toutes sortes de choses en lien avec mes finances ou bien on me dit que je suis pratiquement en état d'arrestation. Il m'arrive toutes sortes d'affaires.
Puis on a beaucoup, 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 beaucoup de questions qui reviennent sur ces courriels-là. Mais on parle de courriel, des fois c'est par SMS, des fois c'est par courriel, des fois c'est par téléphone, des fois les fraudeurs utilisent tous les moyens possibles. Et ce qu'on a vu dernièrement, on sait que les arnaqueurs s'adaptent très, très vite à la réalité de la société, du terrain. Donc, dès que le gouvernement a fait l'annonce de l'envoi des chèques de 600 ou 400 $
de François Legault,
bien, c'est sûr que les arnaqueurs en ont profité. Dès le lendemain de cette annonce-là, déjà, il y avait des messages qui étaient envoyés pour avoir accès à votre chèque ou à votre montant plus rapidement. Cliquez sur ce lien. Ça va se faire par dépôt direct. Mais le gouvernement ne fonctionne pas de cette manière-là. Le gouvernement fonctionne de la même façon avec tout le monde, soit par un chèque par la poste ou si vous êtes abonné au dépôt direct lorsque vous recevez vos impôts, bien le gouvernement vous envoie le 400 ou le 600 $ par dépôt direct. Donc, c'est pas vrai qu'il y a des transferts qui peuvent se faire via les plateformes de médias sociaux, par courriel. Tout ça, c'est vraiment de l'arnaque.
Bien, il y a des gens aussi qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont profondément honnêtes dans la vie, puis ils ne peuvent pas s'imaginer que de l'autre côté, il y a des gens qui sont malhonnêtes à ce point-là.
Ben oui. Puis dans des cas comme ça, c'est pas qu'on risque de perdre de l'argent, parce que si on accepte un faux dépôt, ce que ça fait, c'est qu'on donne accès à nos informations personnelles qui sont à l'intérieur de notre ordinateur. C'est vraiment un logiciel qui va être envoyé dans notre ordinateur, puis qui va donner accès à nos données à la personne qu'on va appeler l'arnaqueur. Donc, à ce moment-là, bien, la personne peut soit utiliser nos données personnelles pour faire d'autres fraudes ou tout simplement pour nous faire du chantage à partir de photos ou à partir d'informations qu'on ne voudrait pas qu'ils soient révélées.
Absolument. Mais ça me décourage. Puis j'imagine que vous êtes découragés, vous autres aussi.
Ah, vous pouvez pas savoir comment.
Oui, puis c'est sûr que s'ils sont débordés comme ça, faire le suivi de tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps.
Oui, c'est de longues heures. Il faut vraiment prouver le geste, aller chercher toutes les informations concernant les transactions, prouver qu'il y a quelque chose de criminel dans tout ça. Même si on le sait, bien, nous, on doit en faire la preuve hors de tout doute pour que les accusations soient acceptées, puis que s'il y a un procès ou s'il y a des accusations de portée, bien nous, on n'a pas le choix de monter le dossier vraiment de façon très, 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 très stricte. Donc, c'est des dossiers qui sont de longue haleine, et il y en a tellement, mais tellement à tous les semaines. Puis on va parler d'autres types d'arnaques dans les prochaines semaines, mais il y a vraiment des gros, gros, gros montants qui sont soutirés à des gens qui sont obligés complètement de changer de vie, de changer de style de vie parce qu'ils ont tout perdu suite à une arnaque. Là.
C'est épouvantable, Luc. Je te remercie beaucoup. On va s'en reparler dans deux semaines de d'autres fraudes. Puis on va vous mettre en garde, les gens à la maison. Puis n'hésitez pas, quand on vous demande un dépôt, donnez pas de dépôt. Si on vous demande vos informations personnelles par téléphone, arrangez-vous pour téléphoner à l'institution avec laquelle vous faites affaire pour vérifier si c'est bien une bonne démarche qu'on fait avec vous. Là.
Même des contrats d'entreprise qui... Maintenant, il y a certaines entreprises qui désirent comme signer des contrats en ligne. Mais assurez-vous au moins que les entreprises ont une place d'affaires, que le représentant de l'entreprise existe vraiment. Donc, faire des contrats ou prendre des ententes en ligne pour des services, c'est
bizarre.
Plus ou moins conseillé.
C'est bizarre.
Très bizarre.
Merci, Luc. On se revoit dans deux semaines. Il est 10h20.